Hoy día voy a contar las leyendas de los castillos belarrusos que todos deberían conocer. Empezamos con el castillo de Krev y el estrangulamiento de Kishtut. Puede ser que recuerden la unión de Krev firmada en el castillo en 1385. Suponía la conclusión de una alianza entre el Gran Ducado de Lituania y Polonia para luchar contra la Orden Teutónica. Sin embargo, ese castillo también tiene una historia sobre la muerte del Gran Duque. Todo ocurrió en 1382 durante las guerras civiles entre los herederos de Gedeon. Lo cuento brevemente. Jagalo capturó a Kęstut y a su hijo Vitovt. Kęstut, de 80 años, pasó 4 noches en los sótanos del castillo y a la quinta noche, como consta en la crónica, fue asesinado por los asistentes del gran duque Jagalo. El mismo destino aguardaba al futuro gran duque Vitovt, pero le salvó su ingeniosa esposa. Entró en el castillo con 2 criadas y Vitovt consiguió escapar poniéndose un vestido de mujer. Gracias a la literatura y a la obra teatral de Alexei Dudarev, esa leyenda es una de las más popularizadas. La historia se basa en el drama amoroso de Bárbara Radziwill, que se casó en secreto con el futuro rey de la mancomunidad polaco-lituana Sigismundo. En aquella época, el heredero al trono estaba obligado a consolidar el poder mediante el llamado matrimonio estratégico. Como novia, se le prometía una muchacha de una de las mejores familias europeas. Pero Sigismundo lo hizo a su manera. La madre de Sigismundo, la italiana Bona Sforza, lo hizo todo según las mejores tradiciones de Roma. Cuenta la leyenda que envió un médico a Bárbara, quien discretamente le dio veneno a la niña. Vivió solo 6 meses y murió. Tras su muerte, el fantasma de Bárbara se instaló en el castillo de Niesvich y advierte de posibles problemas con su aparición. Se dice que la pana negra fue vista en Niesvich en 2000. Justo antes del gran incendio, cuando se quemó la mayor parte del palacio. Otro castillo en el oeste de Belarus que tiene una historia terrible. Existe una leyenda sobre Pavel Sapega, representante de una de las familias más influyentes del Gran Ducado de Lituania. En 1618, el príncipe ordenó adjuntar un monasterio a la iglesia que formaba parte de la propiedad del castillo, pero uno de los muros se hundía constantemente en el inestable suelo. Cuenta la leyenda que el príncipe se enfadó en un momento dado y amenazó con privar de su paga a los obreros. Los tiempos eran duros y los obreros no encontraron nada mejor que hacer un sacrificio, emparedar a la muchacha dentro de los muros, que sería la primera en llevar la cena a su marido. Así nació la historia de la Dama Blanca. A veces se ve su fantasma en las ruinas del castillo de Golshansky, la última vez a finales del siglo XX. También hay castillos en la parte oriental de Belarus, aunque son menos numerosos que en la occidental. Uno de los más interesantes está en Bychów. El castillo estuvo habitado hasta finales de los años 90 del siglo pasado. Allí había talleres de carpintería y en una de las salas funcionaba un museo de historia local. Desgraciadamente, en 2004 hubo un incendio. Desde entonces tiene un aspecto triste. La leyenda más interesante relacionada con el castillo de Bychów es un pasaje subterráneo que se utilizaba para llegar a Mogilev. Son unos 40 kilómetros con la necesidad de cruzar el Dnieper lleno. Pero los historiadores recuerdan, esta información no ha sido confirmada. Hay un pasaje subterráneo de la sinagoga que fue milagrosamente conservado y se encuentra no muy lejos del castillo. Sin embargo, es corto solo a las mazmorras del castillo. Ese camino se encontró durante las excavaciones de los años 80 cuando trabajaba la expedición de Minsk. La sinagoga de Bychów en general se considera un monumento arquitectónico único. Solo había 3 sinagogas de ese tipo en el Gran Ducado de Lituania. Los 2 estaban en Vilna y Pinsk, pero ninguna de ellas sobrevivió hasta nuestros días. En la Edad Media, las pasiones servían en lida porque a todo el mundo le gustaba ese mismo castillo y cambiaba literalmente de manos. Una de las leyendas está relacionada con los cruzados. En diciembre de 1392, grupos de caballeros junto con su aliado el príncipe Vitoft rodearon el castillo de Lida. No era difícil acercarse a él sobre el hielo. Por el camino, los cruzados hicieron un espectáculo de masacres en la ciudad. Quemaron casas, se robaron a la gente. El príncipe Dmitri Karibut, que dirigía la defensa del castillo, decidió no entrar en combate y al amparo de la noche abandonó la fortaleza junto con la guarnición, pero para ganar tiempo dejó en los muros del castillo a varios soldados que tuvieron que luchar contra los enemigos hasta la última gota de sangre. Según la leyenda, estos guerreros siguieron custodiando el castillo incluso después de su muerte.
Belarus de la A a la Z en las ondas de la Radio Internacional Belarus.
Y ahora voy a contar algunos hechos interesantes sobre nuestro país. La ruta interna más larga a través de Belarus se extiende a lo largo de 893 kilómetros. Es la distancia que recorre el tren Brest-Polotsk. La ruta pasa por cuatro regiones: Vitebsk, Mogilev, Gomel y Brest. Es más que la distancia entre Kiev y Moscú, por ejemplo. La calle más larga de Belarus es sin duda la Avenida de la Independencia de Minsk. Su longitud supera los 15 kilómetros. No es que sea un logro extraordinario, pero gracias a la avenida, desplazarse por Minsk en coche resulta rápido y cómodo. Cabe destacar que la avenida ya ha cambiado 14 nombres a lo largo de su historia. Y por cierto, en su día iba a ser incluida en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO por su arquitectura única del estilo imperio de Stalin. Desgraciadamente, Belarus es el país sin salida al mar más grande de Europa. Nos gustaría añadir que tampoco tenemos montañas. El punto más alto de Belarus es la montaña Dzerzhinskaya, de solo 345 metros de altura. Pero estamos entre los 10 países con más bosques de Europa. Los bosques ocupan casi el 39% del territorio de Belarus y cerca del 30% del territorio del país es tierra pantanosa, por lo que al país se le llama el pulmón de Europa. Recordemos que somos muy buenos con el aire limpio. Puede parecer extraño a algunos, pero en nuestro país hay dos centros de Europa a la vez. Uno está cerca del lago So, en el distrito de Glubokaya, en la región de Vitebsk. Este lugar no es nada turístico, por lo que oficialmente la señal conmemorativa del centro de Europa se colocó en Polotsk. La distancia entre estos dos puntos es de 48 kilómetros. Y el último hecho interesante sobre Belarus: en todo el país no se encuentran localidades con las letras C, I, E, U, y solo un pueblo empieza con la letra Ya y termina con ella, se llama Yaya.
Belarus de la A a la Z.
Amigos, para hoy es todo. Habéis escuchado la estación de Radio Belarus. Esto fue el programa Belarus de la A a la Z. Pronto vamos a estar juntos de nuevo con vosotros. Ha estado Nadia Wisniewska. Hasta luego.
Belarus de la A a la Z en las ondas de la Radio Internacional Belarus.
Ты не сможешь меня не познать. Безликих людей в ночи эмоциональных падей. Не треба меня радовать, ты не сможешь меня разбудить. Мы разом теперь только уснем. А помнишь ласкаво летали снежинки и ты мне казал, что я прихожейшая из них. Николи, николи я не буду тебе шукать, ты завсюди в моем сердце, это выник наших справ. А я для тебя все давно дала даремно, сердце дала даремно и душу дала даремно. Ты завсёды в моём сердце. сходи туди, де падають зорки у долонь. Невже ти не бачив огонь, жарчейший і ширий, чим світ усіх зорок сусвіту. І десь у льня стило тепло, що бачив ти в моїх очах. У кожного буде свій шлях, і напевно мой до тебе ніколи вже не приведе.
Bielorrusos en el mundo. Marc Chagall, el genio que se conoce en todos los continentes, el orgullo y un tesoro inestimable de arte del mundo. Uno de sus cuadros más famosos se llama Por encima de la ciudad, y la ciudad sobre la que se cierne una pareja en el amor es la ciudad bielorrusa Vitebsk, sin la cual tal vez no sería conocido por nosotros el famoso Chagall. Aquí, en la tierra bielorrusa, el famoso artista nació, aquí estudió y por primera vez se enamoró. Durante su larga vida, Marc Chagall viajó y trabajó en diferentes países. Pero como ha reconocido el propio artista, cada obra en su rica biografía creativa apareció gracias a su querida ciudad, que le inspiraba durante toda su vida. Mi segunda Vitebsk, así dijo el artista de París. Motivos de Vitebsk se encuentran en pinturas y láminas gráficas de Chagall. Sus ecos suenan en las catedrales de Reims y Mainz, teatros de Chicago, Frankfurt am Main y Londres, las universidades de Niza y de Jerusalén, en el Gran Ópera de París, en el edificio de la ONU en Washington. Hoy en día, los visitantes son atraídos al Centro y Museo Chagall en Vitebsk, que se encuentra en casa de sus padres. Cada verano hay días internacionales Chagall, la recopilación de artistas, músicos, estudiosos y amantes del arte de Marc Chagall. Su espíritu está aquí y ahora en la ciudad bielorrusa de que el artista escribió. Me encanta indefinidamente Vitebsk, no solo porque nací allí, pero sobre todo por el hecho de que yo, para toda la vida, gané los colores de mi obra. El servicio Tax Free es una devolución de impuestos para los no residentes de la Unión Económica Euroasiática y un ahorro en compras de hasta un 15%. Al realizar compras de bienes a partir de 80 rublos belarusos, emita un cheque Tax Free presentando su pasaporte al empleado de la tienda. Los recibos de efectivo y un sobre especial se adjuntan al cheque Tax Free. Al exportar mercancías desde el territorio de la República de Belarus, recibirá una marca de confirmación de exportación en el recibo de Tax Free al presentar las mercancías empaquetadas al funcionario de aduanas. Presente los datos necesarios en el cheque, póngalo en un sobre especial en la casilla Tax Free y reciba un reembolso en su tarjeta bancaria. O comuníquese con una sucursal de Belarus Bank y reciba un reembolso en efectivo.
З чого починається історія кожного з нас, з маленької родини, яка є спешотою. Выгадывала нас, где в узкими стежками упевнена, мы будовали шлях, куды
заўсёды мы вернемся со силами, что нам дает земля. Я праз час ад спадчыны, я беражліва нёс ад дзеда, ад прадзеда, ад матчыны. Ствараўся гэты лёс, дзе вузкімі сцежкамі упэўнена пабудавалі шлях. Прыгожую і незалежную мы збераглі і ўвысь падняліся.
Estimados oyentes, sus cartas más interesantes se colocan ahora en una sección especial del sitio web de la Radio Internacional Belarus, www.radiobelarus.tvr.by, en adelante la sección buzón de correo. Busquen sus cartas y las respuestas a ellas en nuestro buzón de correo.
Западным регионам Беларуси. Escuchen Radio Belarus.
Свотсво 0807 Минск, Республика Беларусь. Зиганус
Асадин. Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возьмут.
Приезжаешь, они очень тепло
встречаются.
Беларусов.
Прыгожая, поэтичная назва. Найлепшее значение для нашей краины.
C'est la radio Belarus internationale de Minsk.
Belarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Belarus. Bonjour chers auditeurs francophones, je m'appelle Katerina Poletaev et je vous salue sincèrement sur les ondes de la radio Belarus. Notre radio propose à votre attention le projet Belarus de A à Z. Belarus de A à Z. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de la vie et l'œuvre de Stanislav Moniuszko. Qui est-ce ? Eh bien, c'est un compositeur, pianiste et organiste biélorusse et polonais, chef d'orchestre et pédagogue, auteur classique de la chanson lyrique polonaise et biélorusse, fondateur de l'opéra national classique. Stanislav Moniuszko est né le 5 mai 1819 dans la famille des propriétaires fonciers polonais à Ubel, près de Minsk, au Belarus. Il a reçu l'éducation primaire à la maison et l'éducation musicale dans une des écoles spécialisées à Minsk. Moniuszko a aussi étudié le piano avec sa mère avant de commencer de sérieuses études de composition à partir de 1837 à Berlin. Revenu en Pologne pour se marier en 1840, Stanislav Moniuszko a accepté le poste d'organiste de la paroisse Saint-Jean de Vilnius, où il a aussi enseigné le piano et à l'occasion dirigé l'orchestre du théâtre local. Il s'est lié alors d'amitié avec l'écrivain Krachevski, contact qui stimule l'intérêt de Moniuszko pour la musique lyrique. C'est à cette époque-là, au milieu des années 1840, qu'il a commencé à composé intensément. Il a écrit ses premiers opéras, d'autres œuvres théâtrales et des cantates. De 1840 à 1858, c'est-à-dire pendant 18 ans, Stanislav Moniuszko a travaillé comme organiste et chef d'orchestre à Vilnius. Vers cette époque, il a également commencé à travailler sur la collection de chansons intitulée Spiewnik domowy, chant à domicile, qui recevrait un accueil très chaleureux auprès du public polonais. Le premier volume de cette collection a été publié en 1843 et a rencontré un grand intérêt parmi le public et les critiques musicaux. Au fil des ans, la collection s'est enrichie de 12 volumes, 267 chansons avec accompagnement de piano. Bien que la plupart des chansons étaient simples, principalement strophiques, il y avait aussi celles en forme de dialogue ou des ballades. La plupart des chansons témoignaient de l'originalité et de l'inventivité mélodique du compositeur. La source des mélodies et des motifs rythmiques de Moniuszko provient souvent du folklore musical polonais. Au cours de sa vie, Moniuszko a plusieurs fois voyagé à Saint-Pétersbourg, où ses concerts ont été très bien reçus. Serov, un jeune critique russe de l'époque, appelait les compositions de Moniuszko des œuvres brillantes. À Saint-Pétersbourg, Stanislav Moniuszko a rencontré et est devenu ami avec beaucoup de ses contemporains éminents, Mikhail Glinka, Mili Palakirev et Modeste Moussorski. Il a consacré son ouverture Baïka, conte de fées, à Alexandre Dargomyshski, avec qui il est devenu très proche. En 1858, Moniuszko a visité Paris et Berlin. Il a rendu visite à Bedřich Smetana à Prague et a fait connaissance avec Franz Liszt. Belarus de A à Z. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Belarus de A à Z sur les ondes de la radio Belarus. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Stanislav Moniuszko, compositeur biélorusse et polonais, qui est à juste titre considéré comme père de l'opéra classique biélorusse. Le moment le plus crucial de la carrière de Moniuszko était cependant sa visite à Varsovie. À partir de 1858 jusqu'à la fin de sa vie, Moniuszko était chef d'orchestre au théâtre d'opéra à Varsovie et professeur à l'université musicale à partir de 1856. Le grand auditorium de 1800 places assises au Grand Théâtre de Varsovie porte son nom. En tant que pédagogue, Stanislav Moniuszko a rédigé un traité d'harmonie, édité à Varsovie en 1871. Pour Stanislav Moniuszko, la création de ses premières vaudevilles, comédies musicales et opéras comiques est liée avec le Bélarus. En 1834, les amateurs de la musique à Minsk ont mis en scène l'une de ses premières œuvres musicales, Les Agents de Bureau. Sa farce à un acte, La Loterie, libretto par Corbin Milewski, a été montée en 1841 à Grodno et en 1843 à Minsk. Vers 1848, sur l'œuvre de Vincent Dounin-Martinkevitch, Stanislav Moniuszko a composé l'opéra comique Idylle, qui pour la première fois a été mise en scène le 9 février 1852 à Minsk, puis dans tout le Belarus, à Bobruisk, Slutsk, Niesvij, Glusk et dans d'autres villes. Grâce à la langue biélorusse employée dans le libretto à côté du polonais et au recours au folklore, c'était un grand événement dans l'histoire de la culture musicale biélorusse. Pour la première fois, des mélodies nationales, des proverbes et des dictons se sont fait entendre sur la scène du théâtre biélorusse. Ce n'est pas seulement l'audace créatrice du dramaturge et compositeur qui s'est hasardé à déclarer ouvertement ses sympathies dans des conditions de l'humiliation de tout ce qui était biélorusse. C'était une action mûrement réfléchie et délibérée, reflétant la position créative, civile et idéologique des auteurs. Il a fallu avoir un grand courage à l'époque de l'empereur Nicolas Ier pour parler du servage, comme dans l'opéra Idylle de Vincent Dounin-Martinkevitch et Stanislav Moniuszko. Même les amis proches ne partageaient toujours leur point de vue. Même l'écrivain biélorusse Vladislav Sirokomla, qui a salué Dounin-Martinkevitch pour avoir été le premier qui a eu le courage d'écrire une grande œuvre en notre langue populaire, estimait que ses travaux étaient trop pointus. À Varsovie, le célèbre critique musical de l'époque, Sikorski, a plusieurs fois reproché à Stanislav Moniuszko que ses œuvres touchaient aux questions sociales trop aiguës, ce qui donnait à sa musique un caractère indésirable. Bélarus de A à Z. La vision du monde de Stanislav Moniuszko s'est formée dans sa jeunesse qu'il a passée au Bélarus. Dès son enfance, le futur compositeur a senti la beauté et l'attractivité du folklore et surtout de la chanson biélorusse. Pendant toute sa vie, Stanislav Moniuszko a entretenu des liens étroits avec les musiciens biélorusses et leur apportait son soutien dans leur activité artistique. Stanislav Moniuszko enseignait le piano à la pianiste minskoise Gorvat, envoyait les œuvres des auteurs biélorusses à Liszt, écrivait des articles sur ses compatriotes, faisait l'analyse de leurs travaux, en particulier de la grammaire musicale de Napoléon Horda. Et maintenant, chers amis, le moment le plus agréable de notre émission. Je vous propose d'écouter une des œuvres de Stanislav Moniuszko, interprétée par l'ensemble biélorusse classique avant-garde. Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarus. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio Bélarus. Après cette brève pause musicale, je continue de parler de Stanislav Moniuszko, célèbre compositeur biélorusse et polonais, fondateur de l'Opéra National. On doit surtout à Stanislav Moniuszko des partitions destinées à la voix, une douzaine d'opéras et autant d'opérettes, sans compter d'autres pages destinées à la scène, de la musique vocale sacrée et profane, ainsi que 360 mélodies. Dans le domaine instrumental, on ne compte guère que trois ouvertures et une polonaise de concert pour orchestre, quelques pièces pour piano ainsi que deux quatuors à cordes, datant respectivement de 1839 et 1840. Stanislav Moniuszko s'est donc surtout taillé sa réputation grâce à ses opéras, remplissant en Pologne un rôle comparable à celui de Smetana, Glinka, le groupe des cinq, Weber, Rossini et Auber dans leur pays. Ses œuvres lyriques, qui se distinguent par une grande richesse mélodique dont l'inspiration trouve sa source dans les chansons populaires polonaises, biélorusses et même lituaniennes, constituent une habile combinaison entre l'influence du premier romantisme allemand, de l'opéra italien, et, bon sang ne peut mentir, du théâtre polonais. Ses nombreuses mélodies, formes musicales alors en vogue en Pologne, dont la situation économique et politique ne permettait que difficilement le développement des orchestres, ont également connu un beau succès. Il n'empêche que deux quatuors à cordes sont remarquables tant sur le plan de l'écriture que du point de vue de l'histoire de la musique polonaise, qui ne comporte que fort peu de bons quatuors composés au XIXe siècle. Thank you. Bélarusse de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarusse. Assez peu connu en France, Stanislav Moniuszko est souvent considéré que comme un compositeur relevant d'une discographie de complément. Son opéra le plus connu, le Manoir Hanté, Strashny Dvor, comporte une intrigue compliquée plutôt du niveau d'une opérette. Deux célibataires sont poussés au mariage par des pseudo-sortilèges provenant d'un pseudo-manoir hanté. Et une musique composite assemblant des influences très diverses, allant d'Offenbach à Weber. Les plus remarquables parmi ses œuvres chorales sont les cantates Sonnette Krimskie, les sonnettes de Crimée, et Vidma, la sorcière, composées sur les paroles d'Adam Mickiewicz, un grand poète du romantisme polonais. La ligne mélodique est particulièrement expressive et dans certaines parties de la composition prend la forme de variations. Stanisław Moniuszko, qui a exprimé l'esprit national polonais, occupe dans la culture polonaise la même place que Smetana occupe dans la culture tchèque et Glinka dans la culture russe. Cependant, né au Bélarus et puisant son inspiration dans le folklore de ce pays, Moniuszko a fait une contribution inappréciable dans la culture biélorusse. Bélarus de A à Z. On peut bien sûr parler pendant longtemps de l'œuvre d'un musicien, mais la meilleure façon d'en faire la connaissance, c'est de l'écouter. Chers amis, je vous propose donc une des œuvres de Stanisław Moniuszko, interprétée par l'ensemble de flûtes biélorusses Syrinx. Messieurs, dames, ce serait tout pour aujourd'hui. C'est Katerina Poletaeva qui anime l'antenne. Écoutez nos émissions en français et vous allez mieux connaître le Bélarus.
Bélarus de A à Z sur les ondes de la radio internationale Bélarus.
Minsk est la capitale du Bélarus. Les habitants du pays et les touristes aiment ces villes pour ses larges avenues et ses ruelles tranquilles, ses parcs verdoyants et l'hospitalité des habitants. Les visiteurs de la ville affirment que Minsk est une des plus vertes villes en Europe. Et c'est une caractéristique juste. Bien sûr, les vicissitudes historiques ont laissé leurs traces dans son apparence. Le nombre de curiosités historiques n'ont pas évité la destruction. Et d'autres villes européennes peuvent offrir aux voyageurs beaucoup plus d'antiquités. Mais les esprits curieux peuvent certainement apprécier l'originalité extraordinaire de Minsk. C'est peut-être la seule ville au monde ayant un millénaire d'histoire qui a été complètement détruite pendant la guerre et restaurée après la guerre grâce à l'inspiration des architectes et aux efforts des habitants. Le bruit et l'agitation ne sont pas propres à Minsk. La ville est tranquille et sans précipitation, mais elle reste toujours fraîche et romantique. Elle a son ambiance particulière remarquée par tous qui viennent ici. Du calme, de la patience et de la gentillesse sont des traits caractéristiques de ses habitants. Minsk est une ville où personne ne se sent en étranger. Bienvenue au Bélarus.
这里是白俄罗斯广播电台，这是值得信赖的关于白俄罗斯政治、经济、社会和文化生活的信息源泉。我是中国汉办派往白俄罗斯国立大学的汉语教师李佐，现在我受托于白俄罗斯广播电台在此播音。我们的记者和编译团队为您准备了可以持续收听的关于白俄罗斯国家和世界重要事件的全部报道，请保持收听白俄罗斯广播电台的节目。
亲爱的听众朋友们，大家好，您正在收听的是白俄罗斯国际广播电台中文频道，现在在演播间为您播报的是您的朋友王哲。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。他指出，应哈萨克斯坦方面邀请，白俄罗斯以观察员国身份出席在阿斯塔纳举行的上合组织成员国安全会议秘书第19次会议。白俄罗斯安全委员会国务秘书说，我希望这是白俄罗斯作为观察员国参加的最后一次会议。七月份的国家元首峰会上，希望能够最终完成我国加入上合组织的程序。白俄罗斯加入上合组织的程序问题已经完成。不久前，我与上合组织秘书长通过电话，他向我证实，所有国家都已签署了相关议定文件。接下来就是在国家元首峰会时正式接受我国加入上合组织。亚历山大·沃尔夫维奇强调，峰会将于7月4日举行，也是在白俄罗斯庆祝从纳粹侵略者手中解放80周年之后举行，这是非常有意义的。他表示，我们将成为第10个加入上合组织的国家，而且按字母顺序排列，白俄罗斯将排在第一位，这也很有象征意义。事实上，白俄罗斯拥护会议讨论的所有方面，并支持上合组织提出的所有倡议。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
沃尔夫维奇，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。白俄罗斯安全委员会国务秘书亚历山大·沃尔夫维奇表示，白俄罗斯将成为上合组织东西方的桥梁。亚历山大·沃尔夫维奇说道，西方和东方之间又出现了一场争斗，这可能是一个哲学命题，生活在螺旋式前进。一方面，美国及其支持下的西方集体，由于与美国的关系在经济方面失去很多，并在与上合组织成员国、中国、俄罗斯联邦、印度和其他国家的交往中受到损失。白俄罗斯正好是东方和西方的桥梁，如果西方能够醒悟，按照正确的道路，通过对话、建设性互动与合作的方式，西方可能会受益。他指出，西方的行为损害了白俄罗斯的经济利益，对白俄罗斯实施制裁并进行经济打击。亚历山大·沃尔夫维奇还谈到了白俄罗斯加入上合组织后将获得的好处，他强调说，对白俄罗斯来说，俄罗斯联邦和中国是战略伙伴，已经建立了良好的双边关系。但是，当我们在上合组织的平台上解决更大范围的问题时，这将有助于白俄罗斯的经济发展，改善白俄罗斯居民的社会保障，这是最重要的。现在白俄罗斯是维护和平与安全的典范，这背后有总统、政府和公务员们的巨大付出。我国加入上合组织后，将进一步加强安全感，扩大国际合作框架和经济框架互动，改善我国福祉。
白俄罗斯国际广播电台欢迎您。
白俄罗斯文学史博物馆与华东师范大学签署合作协议。据文化机构报道，白俄罗斯国家文学史博物馆与华东师范大学签署了合作协议。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长谢尔盖·乌斯克说，与友好国家的合作扩大了白俄罗斯文学在中国的交流前景。中国长期以来对我们的文学都非常喜欢，许多经典作品都被翻译，现在白俄罗斯现代作家的作品也被翻译成汉语。谢尔盖·乌斯克解释说，未来我们在签署协议之前商定的联合项目，包括各种展览，都将得到落实。同时，合作协议的签署扩大了与中国白俄罗斯文化和文学研究中心的合作。据他介绍，今年秋天计划在华东师范大学举办一个展览项目“前线作家”，这对中国来说非常有趣。谢尔盖·乌斯克表示，我们将进一步合作，将博物馆的解说文本翻译成中文，以便将来可以将中文纳入我们的语音指南中。白俄罗斯国家文学史博物馆馆长总结说，我们将在不久后落实这些项目。我相信在更深入地了解这所大学之后，我们将能够开展其他有意义的项目。在这些项目中，我们将讨论白俄罗斯文学的独特性和深刻性。相信中国读者会喜欢我们的经典作品。这是我们在精神上与友好国家和人民积极互动的第一步。
白俄罗斯国际广播电台，欢迎您。
亲爱的听众朋友们，这里是白俄罗斯国际广播电台中文频道，感谢您的收听，我们下周再见。
这里是白俄罗斯您的朋友广播栏目。
Беловежская пуша. Беловый же сынин. Беловый же 国家公园坐落于波兰和白俄罗斯的边境，这是欧洲境内上留下来的最大的史前原始森林。别洛维日公园从15世纪初就是世界上最古老的保护区之一，这里最古老的树木已经有500多年。别洛维日的橡木和云杉树高达50多米，在森林公园中生长着数百种植物和生活着上千万种的动物。别洛维日国家公园的骄傲是拥有世界上最大的野扭群，这些珍贵的动物是白俄罗斯的象征，因此森林公园被称为国际科学认知生态旅游中心，来自不同国家的客人在这里都可以领略到其独特的自然魅力。别洛维日森林公园不仅仅是一座原始森林，也是诗人和音乐家称赞和歌唱的源泉。来到这里后，您可以留宿在伯爵庄园或居住在威士库林酒店，这里也是前苏联新历史开始的地方。在冬季节日的时候参观圣诞老人的庄园，开始一段童话密云的旅途。1992年，别洛维日森林公园列入到人类世界文化遗产，我们邀请您来这里感受大自然的奇迹。欢迎来到白俄罗斯。
白俄罗斯是一个热爱图书、有读书传统的国家。今天的白俄罗斯人是一个读书的民族。每年九月的第一个星期日是白俄罗斯语言文化日。 它是国家规定的节日，庆祝这个节日表现了我们白俄罗斯民族的精神传统，见证了白俄罗斯的印刷文字与其历史及文化的统一。按照传统，白俄罗斯语言文化日在教育、文化和印刷中心举行，在有着丰富文化遗产的城市举行。这些文化遗产和白俄罗斯杰出人物的生活和事业紧密地联系在一起。白俄罗斯语言文化日是一个难得的机会，因为可以了解最新的好书，能够与白俄罗斯和外国作家、新闻工作者以及出版商会面，聆听诗人、作家、创作团队和演员的表演。在这个节日里，我们向那些创建了白俄罗斯语教育和语言文字基础的祖先们致敬。亲爱的朋友们，和我们一起庆祝白俄罗斯语的节日吧，欢迎来到白俄罗斯。
Не слышь. Не слышь.现代城市涅斯维日，距离明斯克100公里处的一个白俄罗斯小城市，以前它被称为第二个小巴黎。涅斯维日在历史上第一次提及可以追溯到13世纪，但是却是拉基维日公爵为这座城市带来的真正的荣耀和繁荣。19世纪，最著名、最神秘的白俄罗斯贵族选择这里作为他们的住所，一直到20世纪中叶都被称为是涅斯维日。在拉基维日的带领下，许多寺庙、大教堂、修道院都在这里修建。他们中大部分都一直保留到现在。16世纪，第一本白俄罗斯语书籍在当地印刷厂进行印刷出版。这座城市最雄伟的建筑是涅斯维日城堡和宫殿，它一直保留到现在。拉基维日拥有藏书丰富的图书馆和大量的艺术收藏品。这里也曾是欧洲最大的宫廷剧院。涅斯维日的另一颗珍宝是保管上帝身体的教堂，这是白俄罗斯第一座巴洛克式教堂，它保留着拉基维日的坟墓，是东欧境内唯一一个家族墓地。如今，涅斯维日是白俄罗斯文化和旅游中心之一，每年将会举办民俗节日和白俄罗斯文化周。2005年，涅斯维日建筑和文化综合体被列入联合国教科文组织世界遗产名录。我们邀请您来欣赏白俄罗斯的历史宝藏。欢迎来到白俄罗斯。
白俄音乐盒。
Все не сдаешься. Ну, моя мама, папа не велят.